Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Nouveau Chemin. On est ensemble jusqu'à 11h. Cette émission affronte quotidiennement les bornes du langage grâce à Geneviève Méric, Ivy Paul Antonacci, Marianne Chassor, Tristan Grenassia et Géraldine Mosna-Savoie. Ce dont on ne peut parler, mise en musique cette semaine par Philippe Baudouin à la réalisation, avec aujourd'hui à l'éthique de la prise de son, Claude Courteau. À 10h50, vous retrouverez comme tous les jours François Noodleman pour le journal de la philosophie. François qui recevra aujourd'hui Bérénice Levet pour vous parler du musée imaginaire d'Anna Arendt, paru aux éditions Stock. Pourquoi dire la vérité quand il est préférable de mentir ? C'est vers 8 ou 9 ans que le philosophe Ludwig Wittgenstein, né à Vienne en 1889, se pose cette question. Entre l'Autriche, Cambridge et un chalet en Norvège, tour à tour ingénieur en devenir, soldat, instituteur et architecte, le travail du philosophe va rapidement dépasser cette question initiale pour s'interroger sur la possibilité d'apporter des réponses aux problèmes éthiques. Mais que faire des questions pour lesquelles le langage n'a pas de réponse ? Et que faire de cet espace délimité par les bornes du langage qui nous donne à penser, mais qu'aucun terme, aucune proposition ne peut adéquatement exprimer ? De ce souci va naître une réflexion sur le langage, considéré comme une boîte à outils que la philosophie doit décrire, et c'est là son unique but. Comme l'indique l'image, qui, selon l'endroit où l'on fixe le regard, nous apparaît tantôt comme un canard, tantôt comme un lapin, la philosophie, pour Wittgenstein, est une affaire de vision, de description, qui vise à dissiper les crampes mentales de l'esprit. Effort de clarification logique des pensées, puis combat contre l'ensorcellement de notre entendement par les ressources du langage. La philosophie, pour Wittgenstein, est une échelle, c'est-à-dire un moyen de nous élever vers ce qu'on ne peut pas voir et dont on doit se débarrasser une fois le but atteint. Active et thérapeutique, cette semaine, la philosophie de Wittgenstein va nous permettre de tester les limites du langage. Demain mardi, Jérôme Sacur et Sébastien Gandon viendront nous introduire au Tractatus Logico-Philosophicus. Mercredi, Vincent Descombes parcourra pour vous les recherches philosophiques. Et jeudi, c'est Jocelyn Benoît qui viendra clore cette semaine en nous proposant une lecture du traité de la certitude, les derniers écrits de Wittgenstein publiés après sa mort. Mais c'est en mouvement que nous allons commencer cette semaine, en voyageant entre l'œuvre et la vie de Wittgenstein, en compagnie de deux philosophes que j'ai le plaisir d'accueillir en studio, Marianne Lescouret, traductrice de la grammaire philosophique de Wittgenstein parue en folio essai en 2001, et Sandra Logier, auteure de Wittgenstein, les sens de l'usage, paru chez Vrin en 2009. Eh bien, Dieu est arrivé. Je suis allée le chercher au train de 5h15. C'est ainsi que Keynes annonça le retour de Wittgenstein à Cambridge dans une lettre datée du 18 janvier 1929. C'est un retour, car le philosophe y avait déjà séjourné en 1912, année qui vit naître son projet de travailler sur les fondements de la logique, ce qu'il fit en s'exilant dans un chalet, en Norvège, pour rédiger son Tractatus Logico-Philosophicus. 17 ans plus tard, en 1929, lorsqu'il pose pied sur le quai de la gare de Cambridge, ce n'est pas seulement Keynes, mais une foule entière qui l'attend. L'ermite est accueilli comme un dieu, ce qui lui déplaît profondément.
Alors passons à W et W.
Il n'y a rien à W.
Si, c'est Wittgenstein. Je sais que c'est rien pour toi, mais je voudrais juste un mot.
Ah non, ça, je ne vais pas parler de ça. Oui. Pour moi, c'est une catastrophe philosophique, c'est le type même d'une école. C'est une régression de toute la philosophie. Il y a une régression massive de la philosophie. C'est très triste l'affaire Wittgenstein. Ils ont foutu un système de terreur où tout, où sous prétexte de faire quelque chose de nouveau, mais c'est la pauvreté instaurée en grandeur. Ça n'a pas de. n'y a pas de mots pour décrire ce danger-là. Oui. C'est un danger qui revient, c'est pas la première fois que c'est revenu, mais c'est grave, surtout qu'ils sont méchants, les Wittgensteiniens. Et puis ils cassent tout. S'ils l'emportent, alors là, il y aura un assassinat de la philosophie, s'ils l'emportent. C'est des assassins de la philosophie. Oui.
Bonjour Marianne Lescouret.
Bonjour Adèle Vendrette, bravo. C'est un extrait tout à fait intéressant. Ce n'est pas mon Deleuze préféré. Et en plus, si vous voulez, on ne peut pas dire vraiment qu'il apporte des argumentations philosophiques à son évocation de Wittgenstein. J'aime bien Deleuze quand il fait ce qu'il appelle de l'histoire de la philosophie, qui se met à parler de Spinoza, de Kant, de Leibniz. Et là, il est tout à fait argumenté. Dire que Wittgenstein, c'est l'assassinat de la philosophie parce que les Wittgensteiniens sont méchants, je crois que c'est quand même sujet à caution, même si ça vient d'un grand homme.
Et je me tourne vers Sandra Logier qui est à côté de vous en studio. Bonjour Sandra Logier.
Bonjour.
Est-ce que la Wittgensteinienne que vous êtes se considère comme une assassine de la philosophie ?
Alors, bien sûr, non. Par ailleurs, Deleuze dit peut-être très, très involontairement des choses assez vraies sur Wittgenstein dans ce moment, hein, puisque de fait, il traduit le caractère très révolutionnaire de la pensée de Wittgenstein. C'est vrai que Wittgenstein détruit quelque chose de la philosophie et des prétentions de la philosophie à la généralité, à une position de supériorité. C'est vrai que Wittgenstein veut ramener la philosophie à des choses apparemment très plates, très ordinaires. Donc, d'une certaine façon, ce que dit Deleuze là est extrêmement révélateur de la force, hein, de la radicalité, de ce que dit Wittgenstein dans toute son œuvre. Hein. Et il y a ce passage des recherches philosophiques, Marianne connaît aussi, où Wittgenstein dit que, bizarrement, ces recherches semblent ne faire que détruire tout ce qui présente de l'intérêt, c'est-à-dire tout ce qui est grand et important. C'est dans les recherches philosophiques, paragraphe 118, qu'elles ont l'air de tout détruire. Et justement, ce que Wittgenstein veut nous apprendre, c'est que ce qui a l'air très grand et important, ce qui est si grand et important aux yeux de philosophes comme Deleuze et souvent à raison, et bien c'est peut-être quelque chose qui n'est pas important du tout et que l'important c'est ailleurs.
Mais cette révolution qu'opère Wittgenstein et qui fait sans doute, qui explique sans doute la haine visiblement que Deleuze lui porte, pourtant n'a pas toujours été autant contestée par les philosophes eux-mêmes, puisque dans le texte que j'ai lu juste avant, on entend Keynes qui décrit l'arrivée de Wittgenstein. Il dit je suis allé chercher Dieu à la gare, il a été accueilli comme un Dieu, Marianne Lescouret. Donc de son vivant, Wittgenstein n'a pas suscité que des haines autour de lui.
Non, bien entendu. En fait, Keynes, qui était un peu le manager de Wittgenstein, comme du groupe de Bloomsbury, parle de Wittgenstein non pas tellement en tant que philosophe, mais en tant que personnage. Il faut bien savoir aussi que lorsque Wittgenstein est arrivé en Angleterre, il a rencontré Russell qui se disait mon Allemand.
En 1912. Hein.
Voilà, c'est ça, en 1911-1912. Et Russell se disait, je ne sais pas si mon Allemand est idiot ou non. Et puis Wittgenstein lui disait, est-ce que je dois continuer à faire de l'ingénierie aéronautique ou est-ce que je dois aller vers la philosophie ? Russell lui a demandé de rendre un travail et il s'est dit ébranlé par la pensée de Wittgenstein. Et Wittgenstein est devenu un personnage à Cambridge. Et c'était quelqu'un qui était capable de dire, d'abord de convoquer Moore dans sa hutte, hein, c'est pas un chalet, c'était vraiment une hutte accessible par la mer seulement, dans sa hutte de Norvège pour lui dicter les notes de logique, Moore qui détenait la chaire de philosophie à Cambridge. Hein. Et c'est quelqu'un qui, au moment où il a soutenu sa thèse à partir des travaux du Tractatus en 1929 à Cambridge, hein, soutenait devant Russell et Moore, qui étaient un peu gênés pour lui poser des questions, et Wittgenstein leur a dit « De toute façon, vous n'y comprenez rien ». Donc, si vous voulez, la divinité de Wittgenstein, ça tient à l'impression générale que ce personnage produisait par ce qu'il appelait son robuste sens scolastique, le caractère charismatique de son élocution et la profondeur radicale de sa pensée. C'est ça, Dieu. Alors, c'est pas... en fait, l'expression de Keynes est totalement ironique, hein, mais en même temps, elle rend compte de la particularité révolutionnaire, comme l'a dit Sandra, de la pensée de Wittgenstein et de son personnage.
Sandra Logier.
Si Wittgenstein était attendu ainsi comme Dieu, hein, ou comme le Messie, c'est aussi qu'il n'avait Il s'était vraiment rendu un silence hein, depuis 10 ans. Il avait, ce qui est quand même très très rare, un philosophe qui arrête, qui à la fin du Tractatus parle de faire silence et qui ensuite avait, alors que son œuvre était extrêmement discutée, avait décidé de faire toute autre chose, d'arrêter de faire de la philosophie. Donc ce retour était extrêmement, extrêmement tendu, hein, comme une superstar disparue depuis des années. Et je crois que c'est cela aussi qui marque l'importance de ce moment. Et puis, c'est vrai que cette époque-là, quand il va revenir à Cambridge, va être le moment d'une nouvelle manière, hein, complètement nouvelle, de faire de la philosophie, à la fois pour Wittgenstein et en philosophie en général. Donc c'était une attente justifiée.
C'est précisément parce qu'il y a un lien très fort entre les différentes étapes de la vie de Wittgenstein, les lieux où il décide de vivre, puisqu'il est à la fois à Cambridge, dans la basse Autriche où il devient instituteur, en Norvège où il s'exile dans un chalet qu'il construit lui-même pour rédiger son œuvre, et aussi donc le lien entre ces différents moments de sa vie où il se donne à des activités extrêmement différentes et l'évolution de sa pensée, puisqu'on a pu parler d'un premier Wittgenstein qui correspond au Tractatus, et d'un second Wittgenstein qui, lui, commence à partir des recherches philosophiques, hein, autant de textes dont on va parler cette semaine. C'est pour bien montrer ce lien entre les deux que nous avons choisi de commencer cette semaine avec cette émission qui consiste à faire les liens donc, entre la pensée de Wittgenstein d'un côté et sa vie de l'autre. Et une bonne façon de donner à entendre que ce lien est loin d'être anecdotique est présente dans une lettre que Wittgenstein écrit à Monsieur Ficker, qui est une lettre qui est vraisemblablement date de 1919, même si on n'a pas la date exacte, et que je vous propose écoutez tout de suite.
Cher monsieur Ficker, le manuscrit du Tractatus vous est adressé avec cette lettre. Maintenant, je place en vous mes espoirs. C'est pourquoi cela vous aiderait peut-être si je vous écrivais quelques mots à propos de mon livre. Vous ne tirerez pas grand-chose de sa lecture, j'en suis convaincu. Vous ne le comprendrez pas. Le contenu vous paraîtra totalement étranger. En réalité, il ne vous est pas étranger. Car le sens du livre est d'ordre éthique. J'ai envisagé d'inscrire dans la préface une proposition qui ne s'y trouve pas, mais que je vous adresse maintenant, car elle vous donnera peut-être une clé. Je voulais écrire que mon ouvrage consiste en 2 parties, en ce que vous avez sous les yeux et en tout ce que je n'ai pas écrit. Et c'est précisément cette 2e partie qui est importante. L'éthique est en quelque sorte délimitée de l'intérieur par mon livre. Et je suis convaincu que, strictement, c'est ainsi seulement qu'on peut la délimiter. Bref, je crois que tout ce qui de nos jours ne suscite que bavardage, je l'ai identifié dans mon livre en n'en parlant pas. Et c'est pourquoi, si je ne m'abuse pas trop, mon livre dira beaucoup de ce que vous voulez dire, mais vous ne verrez peut-être pas que cela y est dit.
Marielle Lescouret, lorsque Wittgenstein écrit que son livre consiste en 2 parties, la première, celle qu'on a sous les yeux lorsqu'on tient le livre, et la seconde, en tout ce qu'il n'a pas écrit, et que c'est précisément cette 2e partie qui est importante, est-ce que ce n'est pas une manière pour Wittgenstein d'indiquer que la consistance de son œuvre se trouve non pas dans ses écrits, mais dans sa vie en tant que telle?
Non. Je suis assez brutale. Si vous voulez, je n'ai pas la distinction entre la vie et l'œuvre, comme j'ai l'habitude, auteur de biographie, de le dire. Les gens ne meurent pas quand ils s'attablent à leur table de travail. En revanche, ce qui est intéressant chez Wittgenstein, c'est le personnage. C'est le lien entre le personnage et la philosophie. C'est un personnage qui a été tellement frappant et flagrant que tous les gens qui l'ont côtoyé ont éprouvé le besoin de faire un portrait de lui. Je parle de von Frisch, son exécuteur testamentaire, je parle de Norman Malcolm, je parle de Russell, je parle de Popper. Et c'est un caractère tout à fait particulier. Alors, pour en revenir, si vous voulez, à ce changement, je pense qu'il y a une continuité aussi dans la pensée de Wittgenstein. Nous sommes toujours dans une vision thérapeutique de la philosophie qui se pratique, j'allais dire, mécaniquement et radicalement dans le Tractatus, qui devient beaucoup plus fluide, articulé, analytique dans ce qu'on appelle la 2e philosophie, de laquelle il ne faut pas séparer l'enseignement sur la psychologie psychologie. N'oublions pas qu'il a aussi étudié la psychologie avec Moore dans ses premières années à Cambridge. Mais pour en revenir à Wittgenstein, vous avez un fils d'une grande famille patricienne viennoise, élevé par des précepteurs qui cède piano de concert à la maison. C'est vraiment une éducation particulièrement privilégiée. Et c'est ce Wittgenstein-là qui part étudier l'aéronautique. Hein, et c'est ce personnage-là, avant la guerre, c'était un personnage que l'on a immédiatement, que certains comparaient immédiatement à l'Alyosha, le Starets des frères Karamazov. Hein, un personnage doux et lumineux. Et c'est cet homme-là qui va s'engager sur le front, enfin qui va s'engager pendant la Première Guerre mondiale, qui part avec le Tractatus dans son paquetage, hein, qui va être au front, qui va se retrouver avec des bidasses relativement mal élevées, il va se sentir mal, il va être décoré, il va être fait prisonnier. C'est quelqu'un qu'on verra transporté sur une charrette de prisonniers qui est en train de fredonner la 7e symphonie de Beethoven. Hein. Et ce personnage-là va rentrer sans doute marqué par la guerre, marqué aussi par les tragédies familiales. Il a quand même trois frères aînés qui se sont suicidés. Justement en raison de cette exigence du père Karl Wittgenstein, qui était un magnat de l'acier, simultanément un grand protecteur des arts, et qui exigeait la même aptitude multipolaire, je dirais, de ses fils, tout en leur ayant donné une éducation tellement préservée qu'elle en a fait des inadapté. Et ce qui se passe, hein, comme le remarque aussi McGuinness dans sa biographie, enfin, du jeune Wittgenstein, eh bien, ça n'est plus du tout ce personnage doux et lumineux comparable à Alyosha qui revient comme Dieu à Cambridge dans les années 30. C'est un personnage beaucoup plus austère et réprobateur. Et donc, si vous voulez, et c'est à ce moment-là aussi que, j'allais dire, le caractère odieux de Wittgenstein, parce qu'il a été odieux, je pense notamment à une attitude tout à fait méchante. Enfin, bon zut, je donne raison à Deleuze, tout à fait dur vis-à-vis de Weissmann, parce que ce qu'il y a d'intéressant chez Wittgenstein, c'est que vous disiez que De la certitude n'avait pas été publié. Bien sûr, il a écrit, rien n'a été publié de Wittgenstein. Rien n'a été publié de Wittgenstein et il y a deux choses tout à fait intéressantes dans sa façon de travailler. D'un côté, il a 18 cahiers sur lesquels il travaille simultanément et il a des boîtes à chaussures avec des cartons qui sont reproduits de sorte que vous retrouvez des extraits d'un livre à l'autre. Et il y a une autre façon de travailler, et tout ça, c'est du travail en chantier, si vous voulez. Et puis, il y a une autre façon de travailler, c'est de travailler en dictant. Et pourquoi les dictées sont intéressantes ? Parce qu'il a un interlocuteur. Mais il ne supporte... Alors, il sait très bien que sa pensée est diffusée. Mais il ne supporte pas qu'elle soit exposée par un autre. Or, c'est ce que Weissmann avait voulu faire dans L'Augigsprachen Philosophie. Et Wittgenstein a toujours empêché que ce livre ne paraisse. Donc, si vous voulez, c'est le caractère de Wittgenstein qui est important et qui détermine soit sa vie en société, soit sa vie érémitique.
Et donc, ce caractère est précisément ce qui fait le lien, donc, du coup, entre ces deux vies dont vous parlez, mais ce qui montre bien que ces deux vies ne sont pas opposées ou dissociables de manière schématique de cette façon-là, puisque chez Wittgenstein, cette exigence que l'on retrouve dans sa propre vie est à l'œuvre non seulement dans son travail, mais cela va plus loin qu'une simple exigence théorique, puisque pour Wittgenstein, la philosophie est une activité en tant que telle. Vous l'avez dit, thérapeutique, hein, Marianne Lescauré tout à l'heure, c'est une activité thérapeutique qui a pour fin autre chose qu'elle-même. Elle n'est pas auto-centrée, auto-télique. La philosophie doit conduire à changer sa vie. Je pense qu'on peut le dire ainsi, Sandra Laugier.
Je crois que c'est un des éléments de continuité les plus forts, peut-être, entre la première et la seconde philosophie. Peut-être qu'il y en a une troisième. D'ailleurs, c'est cette idée qui est exprimé très, très clairement dans le Tractatus, qui est que la philosophie n'est pas là pour proposer des thèses, pour donner de nouvelles connaissances. Hein, c'est explicite. Et je crois que c'est cela aussi qui peut choquer des philosophes de traditions très différentes. Hein. Donc la philosophie, elle ne fait pas de thèse, elle n'a pas de théorie même. Hein. Elle laisse les choses telles quelles, hein, il le dit dans les recherches. Donc elle est, en un sens spécifique et très profond pour Wittgenstein, elle est pratique. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est pratique et cette dimension pratique, elle va apparaître de façon peut-être différente dans le Tractatus et dans la suite de la philosophie après le retour de Dieu à Cambridge. Mais c'est vraiment cela, l'originalité de Wittgenstein et cette dimension pratique, elle apparaît dans le fait que c'est une philosophie qui veut vous transformer, qui va transformer son auteur, hein, Wittgenstein, qui est quelqu'un qui est extrêmement une personnalité, hein, comme Marianne le disait, extrêmement forte et qu'on entend, hein, dont on entend la voix dans tous ses écrits, y compris dans le Tractatus, qui a cette allure un peu impersonnelle. Hein, c'est quelque chose, c'est un texte qui est traversé par une intensité de vie, et je crois que c'est cela qui en fait un texte très saisissant. Donc, c'est une œuvre qui transforme son auteur et qui transforme le lecteur, qui vise la transformation du lecteur. C'est cela qui frappe le plus dans le Tractatus. C'est à la fois que c'est un ouvrage apparemment très construit, avec des propositions impersonnelles qui, disons, évoquent en gros le rapport du langage avec le monde, des propositions avec les états de choses, donc une dimension austère, et qui, en même temps, va viser à changer son lecteur par une sorte de nouvelle compréhension du langage et du sens et du non-sens. Et à la fin du Tractatus, hein, dans une des dernières propositions, ça a été souvent commenté, Wittgenstein va parler de celui qui le comprend. Il dit « celui qui me comprend, justement, va comprendre que à la fois l'ensemble de ce qu'il y a dans le Tractatus est du non-sens, mais qu'il faut surmonter cela, hein, repousser l'échelle, comme vous disiez, Adèle, pour arriver vraiment à comprendre ce qui se fait dans cet ouvrage. » Et donc, c'est cette compréhension, c'est en gros cette compréhension de l'auteur qui est attendu chez le lecteur et qui le transforme. Et je crois que c'est quelque chose que tous les lecteurs de Wittgenstein attentifs ont ressenti fortement et qui se poursuit dans la seconde philosophie.
Mais comment se fait ce lien? Parce que justement, on va en parler toute la semaine, hein, mais là, essayons de disposer dès à présent les bases pour mieux comprendre ce dont on parle. Comment se fait ce lien entre, d'un côté, la volonté d'agir et de transformer sa vie et, de l'autre, la réflexion sur le langage? En quoi est-ce que le langage est particulièrement propice à faire se rejoindre la pensée théorique d'un côté et l'action de l'autre?
Alors, je crois que c'est vraiment cela, l'accomplissement, hein, du Tractatus. Hein, c'est vraiment un ouvrage qui est sur les limites du langage. Hein, c'est ce qu'il dit dans la préface. Ce que Wittgenstein montre, et c'est cela qui fait de son ouvrage l'ouvrage emblématique, hein, de toute la philosophie du langage et de la philosophie analytique, hein, au XXe siècle, même si elle n'est pas... elle n'est pas... finalement, maintenant, en cohérence avec ce qu'a fait Wittgenstein au départ, hein, malgré tout, c'est vraiment cette insistance sur le fait que c'est le langage, hein, qui est l'instrument de la transformation de soi, de la thérapeutique. C'est dans le langage que se passent réellement donc, les enjeux de l'éthique, des usages du langage, du rapport qu'on va avoir et exprimer à sa propre existence. Et je crois que c'est là, en fait, la révolution qui se passe avec Wittgenstein. C'est justement dans l'idée que c'est au sein du langage, hein, avec cette idée d'exploration des limites du langage, comme il le dit, des bosses, que l'entendement se fait en se heurtant à ses limites, hein, il le dit dans les recherches, mais aussi dans le Tractatus, dans le fait, cette volonté de sortir, de se trouver à l'extérieur du langage pour le contempler, pour en explorer les limites, alors que c'est impossible, c'est là que vraiment s'exprime en fait un enjeu éthique fondamental. Et donc ça inscrit le langage en tant que tel, l'activité de langage, hein, le fait qu'on vit dans un monde de langage, que c'est ça notre forme de vie. C'est cela qui est affirmé dès le Tractatus et dans toute l'œuvre de Wittgenstein. Et c'est ça la continuité aussi de tous ces textes qui ont des styles très très différents.
Et pourtant, Marianne Lescouré, les gens qui décrivent Wittgenstein, vous l'avez dit, hein, beaucoup de portraits ont été faits de cet homme, en font quelqu'un d'un peu fou, qui a une expression particulière. Russell décrit comment Wittgenstein faisait des allées-venues dans sa chambre en parlant à voix haute et qu'il parlait comme un fou, qu'il n'arrivait plus à comprendre. Donc c'est intéressant de voir comment cette importance accordée au langage va de pair chez lui avec une façon visiblement de communiquer extrêmement énigmatique.
Alors, non, je... Décidément,
il y a trois choses... Donnez raison à Deleuze une fois de plus.
Non. Il y a trois choses à ce propos. Je pense que si quelqu'un avait rencontré Russell, il l'aurait décrit aussi comme relativement cinglé. N'oubliez pas que quand Russell était prisonnier de Sa Majesté pour fait d'objection de conscience, il se faisait livrer des traités de logique énigmatique qui lui arrachaient des hurlements de rire, de sorte que son geôlier est venu lui voir en lui disant qu'on ne se comportait pas comme ça dans les prisons de Sa Majesté. Et Wittgenstein et Russell, c'était des gens qui passaient, qui se promenaient à quatre pattes pour démontrer qu'il n'y avait pas d'éléphant sous le lit, voyez-vous. Bon, donc Russell n'était pas édin. Deuxièmement, je pense que vous avez déjà vu dans vos études des penseurs qui étaient en train de réfléchir devant vous. Et même vous, j'imagine, quand vous faites de la philosophie, il peut vous arriver d'aller et venir. Je pense que c'est un comportement tout à fait ordinaire. Hein. C'est vrai que Wittgenstein a des yeux d'une luminosité, enfin d'un éclat. Je trouve qu'il est plus joli les yeux baissés. Bon, mais si vous voulez, il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Troisièmement, revenons sur cette éthique du langage. Moi, je sais que ça m'a beaucoup touchée quand j'ai lu Wittgenstein il y a très très longtemps à Oxford. Mais ce qu'il y a de fondamental là-dedans, l'enjeu éthique du langage, c'est simplement que le langage clair, c'est le langage commun, c'est le langage par lequel on se comprend. Hein. C'est ça. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, pour en revenir aussi à l'exigence de pureté de Wittgenstein, à l'exigence éthique, n'oubliez pas cette notation fondamentale des carnets en 1916. Hein. L'énigme, c'est heureux dans la connaissance malgré la misère du monde. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est quelque chose, je dirais, qui ne va pas le lâcher, même quand il sera arrivé à dire tout se passe dans le langage. Et ce qui est intéressant, ça se voit aussi dans la vie de Wittgenstein. Vous parliez des lieux, bon, l'érémitisme propice à la recherche, hein. Mais n'oubliez pas aussi que c'est un type qui s'est engagé dans la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui a pris la nationalité britannique et puis qui était tout à fait observateur de ce qui se passait dans le monde, qui a voulu partir, intéressé par la révolution russe. Hein. Il est parti, il a pris le russe, il est parti en Russie, et il est revenu parce qu'il voulait travailler dans un kolkhoz et on lui proposait un poste à l'université de Moscou.
Ce matin, j'ai rêvé. Il y a longtemps, j'avais demandé à quelqu'un de me fabriquer une roue hydraulique. La roue était posée là, et elle était mal faite. Il m'expliqua à quel point le travail était difficile, et je me dis, j'avais demandé une roue hydraulique simple qui aurait dû être facile à fabriquer. J'étais tourmentée par l'idée que l'homme est trop stupide pour que je lui explique, ou pour qu'il fabrique une meilleure roue, que je ne pouvais rien faire d'autre que le laisser continuer. Je pensais... Je suis obligée de vivre avec des gens dont je ne peux pas me faire comprendre. C'est quelque chose qu'il m'arrive souvent de penser, avec en même temps le sentiment que c'est de ma faute. Sandra Logier lorsque Wittgenstein écrit qu'il il se sent obligé de vivre avec des gens qui ne peuvent pas le comprendre et qu'en plus, il a l'impression que c'est de sa faute. On a là les deux clés de sa pensée dont nous avons parlé jusqu'à présent. D'un côté, l'impossibilité de la compréhension totale par le langage, mais également cette notion de culpabilité renvoie à la notion même d'éthique qui est fondamentale pour lui, éthique dont il dit justement qu'on ne peut rien dire, que l'éthique est de l'ordre du faire et non pas du dire.
Oui, l'éthique ne peut pas se dire, il n'y a pas de proposition éthique pour Wittgenstein. Il le dit dans le Tractatus et c'est tout ce qu'il dit de l'éthique, hein, c'est ça, cette dimension entièrement éthique de l'ouvrage qui est affichée dans la lettre à Ficker, c'est vraiment ça. C'est le fait qu'elle ne peut pas être dite dans le langage, mais elle ne peut pas non plus être dans une espèce d'ineffable, de non-sens inaccessible. Et donc, elle est en effet dans juste ce qu'on fait, hein, ce qui est sous nos yeux, hein, ce qui est là. Et cette idée que tout ce qu'il y a à savoir, à connaître, bon ben c'est là, c'est à disposition. C'est vraiment cela qui va être aussi déployé dans sa seconde philosophie, mais toujours avec cette exigence, cette tonalité éthique que vous remarquez et qui a vraiment à voir avec aussi une forme d'expression, un style, hein, c'est-à-dire que l'éthique va être aussi dans le style de l'écriture, de la parole et la façon dont l'homme, l'humain, va constamment s'exprimer dans ses gestes, dans ses paroles, dans ses regards, ses expressions. Et c'est là aussi que va se trouver l'éthique. Et il y a en effet, dans ce sentiment de culpabilité, qui est dans ce passage, il y a vraiment l'expression de ce caractère extrêmement, extrêmement tourmenté, difficile de Wittgenstein, mais qui se traduit en termes de philosophie du langage par ce rapport à la fois donc à l'accord dans le langage, le fait qu'il y a un langage commun, ordinaire, qu'il est partagé et que c'est ça la première réalité à quoi on a affaire dans la vie, hein, quand on entre dans le langage. C'est le début des recherches philosophiques, hein, sur comment le petit enfant qui se retrouve plongé dans un monde de langage des adultes, hein, avec la citation d'Augustin. Donc il y a ce langage qui est là et qui nécessite la compréhension et l'accord, et tout un ensemble de pratiques qui sont associées à cela, à cette forme de vie dans le langage, des pratiques que Wittgenstein cherche constamment à décrire. Et puis il y a en effet, de l'autre côté, l'idée que un autre être humain et ce qu'il dit et le langage lui-même peut être aussi quelque chose de complètement opaque et mystérieux, être une énigme, un mystère total. Et c'est ce mélange donc de familiarité du langage et puis d'étrangeté dans l'expression, dans le rapport à autrui, qui va caractériser, il me semble, la tonalité du second Wittgenstein, hein, ce qu'on appelle aussi l'inquiétante étrangeté de l'ordinaire. C'est vraiment l'inquiétante étrangeté de cette vie humaine dans le langage.
Mais alors, la question se pose alors de savoir pourquoi continue-t-il à écrire, justement alors que, si je reviens au texte qu'on a diffusé tout à l'heure, la lettre à M. Ficker, où il écrit que le plus important dans son ouvrage réside dans ce qu'il n'a pas écrit. Alors dans ce cas, pourquoi écrire tout simplement, Sandra Logier, Marianne Escouret?
Alors, Marianne le dira sûrement mieux, mais de fait, je crois que lorsqu'on continue à écrire, et c'est ce qu'il fait inlassablement, c'est toujours pour essayer d'arriver à la bonne expression. Il cherche tout le temps, il y a toujours cette idée d'arriver à l'expression juste.
De perfectionnement, hein, justesse, du coup, dans l'écrit.
La justesse de ton. Et en effet, il y a une dimension de... Alors l'éthique qui est présente, là, ce n'est pas du tout une éthique du choix rationnel ou du devoir, hein, même si c'est présent chez lui, mais c'est aussi une éthique perfectionniste. Mais qu'est-ce que c'est là que la perfection, que le perfectionnement? C'est d'arriver à dire correctement ce qu'on veut dire. Il y a toujours cette tension, hein, dans tous les passages que vous avez lus, hein, d'arriver à réellement s'exprimer, arriver à son vouloir dire, hein, son meaning en anglais, et arriver à une tonalité juste qui est d'ordre musical aussi, hein. C'est comme d'arriver à sortir son grand air quand on est un chanteur, arriver à trouver la bonne note. Et Wittgenstein est vraiment celui qui est constamment arrivé, mais avec les pires difficultés, enfin constamment, qui a constamment essayé d'arriver à cette justesse de ton, à laquelle on n'arrive jamais, hein, comme dans tout perfectionnisme. Et c'est cela qui le pousse constamment à écrire. Et c'est cela aussi la dimension éthique qu'il y a dans le langage, hein, qu'on cherche tous. Hein, on cherche tous à arriver à trouver la bonne note.
Et alors cette dimension de perfectionnement qui passe par le travail de l'écriture, essayer sans arrêt de cerner les limites de langage, peut-être de les repousser au maximum, cette dimension de perfectionnement, on la retrouve également dans sa vie en tant que telle. Je renvoie au titre de la biographie que Ray Monk a consacrée à Wittgenstein, qui s'appelle « Le devoir de génie ». On a là cette notion, cette espèce d'injonction à devenir un génie. Peu importe si c'est ainsi que Wittgenstein le vivait, en tout cas, ce qui est sûr, Marianne Lescouret, c'est qu'on voit dans sa vie les différentes activités que lui-même a menées de front. Vous l'avez rappelé rapidement, il s'est engagé volontairement sur le front lors de la première guerre mondiale. Il a été instituteur, il a construit des cerfs-volants, il a ensuite dispensé des médicaments dans des hôpitaux. Il a fait un nombre d'activités extrêmement différentes, peut-être justement par ce même souci, sans arrêt, d'explorer des limites qui sont... Alors, décidément, je ne vais pas poser une question sans vous répondiez non.
Oui, non, enfin, excusez-moi, je suis un peu... vous oubliez, Jardin dans un cloître. Il faut voir aussi comment ça comment tout cela se déroule. Pour rebondir sur ce que disait Sandra, Wittgenstein disait « L'éthique et l'esthétique se déroulent sub specie aeternitatis, ce qui n'est pas le cas de la philosophie. Hein. » Et justement, vous parliez de la lutte contre la crampe mentale, contre la craving for generality, cette recherche de la généralité, du concept, du chose. La philosophie, je dirais, pour reprendre un terme qui est loin d'être wittgensteinien, c'est l'entretien infini, c'est-à-dire la recherche de la différence. Hein. « I teach you differences hein. ». C'est quand Wittgenstein cite Shakespeare. Hein. C'est ça qui est en jeu. Et alors, il faut bien voir les différents métiers que Wittgenstein a exercés. Il commence par l'aéronautique, on lui dit qu'il peut faire de la philosophie. Il fait de la philosophie, mais en mécanicien, je dirais, puisque la mécanique, comme il dit, c'est avoir un plan de composition pour dire la totalité du monde. Et ce qu'il voulait faire dans le Tractatus, c'était résoudre la philosophie une fois pour toutes. Bon. Et puis, il rentre comme d'habitude à Vienne. Il a passé tous les Noëls de sa vie dans sa famille à Vienne. Hein. Et il y a eu l'expérience de la guerre. Hein, et vraisemblablement, il a envie de faire quelque chose pour autrui, je ne sais pas où de se paraître. Il devient instituteur. Il passe, alors d'abord jardinier dans un cloître, instituteur. Ça ne se passe pas très bien avec les gens de la basse Autriche, comme vous dites. Et il écrit effectivement à Keynes « La veine est tarie ». C'est-à-dire qu'il ne peut plus écrire. Et puis, en 1925, il revient à Cambridge et il repart toujours dans la même quête. Et alors, pour ce qui est, si vous voulez, du devoir de génie, ça renvoie à quelque chose qui est tout à fait prégnant dans Wittgenstein et qui parcourt toutes les remarques mêlées. Vous savez, ces fameuses Bemerkungen qui sont un ensemble de notations où, là, je suis contente que Sandra ait parlé de la musique parce qu'il y a une notation de Wittgenstein à Drury qui lui dit « Écoute, personne ne comprend ce que la musique a représenté pour moi et à partir de là, on ne comprendra pas mon œuvre. Hein. » Et alors, si vous voulez, les remarques mêlées parlent de la musique chez Wittgenstein, enfin, c'est-à-dire que Wittgenstein parle de son amour pour la musique, et il parle aussi d'autre chose qui est un peu occultée, mais d'une chose qui est fondamentale chez lui, c'est le judaïsme. En 1937, quand il fait sa grande confession à Skinner, à Fania Pascal, à quelques amis proches, à Ludwig Hensel, de quoi parle-t-il? Il parle de deux choses. Un, de ce qui lui a fait quitter l'enseignement en Basse-Autriche, c'est-à-dire de la gifle qu'il a flanquée à une écolière. Et il ne s'en veut pas de la gifle, mais d'avoir nié l'avoir donnée. Deuxièmement, on revient sur la faute. Hein. Qu'est-ce qu'il se reproche dans cette confession? Il dit, voilà, je vous ai menti, je ne suis pas un quart arien, trois quarts arien, un quart juif, je suis trois quarts juif, un quart arien. Et cette judéité, ce judaïsme, hein, que son père lui avait dit, effectivement, nous sommes entièrement juifs. Eh bien, c'est une interrogation qui est prégnante, qui parcourt toutes les remarques philosophiques. Pourquoi toutes les remarques mêlées, pardon. Pourquoi? Que dit Wittgenstein? Il dit le génie juif, c'est un génie reproducteur. Ils sont incapables de créer. Et si vous voulez, l'inquiétude aussi de Wittgenstein, je dirais que c'est moins, si vous voulez, du devoir de génie que d'être taraudé eh bien, par ce qui lui semble une défaillance, c'est-à-dire une incapacité de créer, qui le met aussi toujours eh bien, dans la recherche. Hein.
Et, ce qui nous fait rejoindre quand même la quête de perfectionnement, du coup.
Je ne sais pas si c'est le désir de la perfection au sens d'arriver à quelque chose de définitif.
Ah non, mais justement, de perfectionnement en mouvement, non pas de perfection.
Le service de la vérité, voilà, c'est ça.
Sandra Logier.
Oui, je crois que ça a à voir avec une forme de perfectionnement infini. Et il me semble que là, c'est quelque chose qui est l'obsession peut-être de Wittgenstein. Là aussi, on cherche des continuités du début jusqu'à la fin. C'est toujours, est-ce que ce soit le cas en mathématiques ou dans la vie, dans les usages du langage, enfin, dans tous les domaines qui l'ont intéressé, c'est comment est-ce qu'on peut avoir du nouveau, finalement, inventer, créer. Et c'est ça, le devoir de génie. Hein. C'est toujours, finalement, toujours continuer, essayer de faire quelque chose de nouveau. Et c'est vrai, comment est-ce qu'en logique, on peut avoir quelque chose de nouveau? Comment en mathématiques? Et dans l'usage du langage, c'est ça qui intéresse Wittgenstein dans les recherches, dans le cahier bleu. C'est comment est-ce qu'on peut constamment inventer de nouveaux usages, utiliser un mot qu'on a appris dans un contexte complètement différent et en faire autre chose. Et ça a l'air d'être un point un peu technique, grammatical. Et en fait, c'est complètement fondamental parce que c'est ce que nous faisons constamment dans la vie, c'est créer, inventer de nouveaux usages dans les nouvelles circonstances qui sont les nôtres. C'est-à-dire que ce qu'on fait, là, c'est encore la musique, c'est vraiment de l'improvisation. Hein, et l'improvisation et le perfectionnisme, c'est deux choses qui vont ensemble. C'est-à-dire qu'on est constamment un peu sur la corde raide, même dans nos usages, dans notre vie quotidienne, à essayer de créer du nouveau. Et c'est cela qu'on sent dans l'écriture de Wittgenstein. Hein. Je crois que c'est ça qui est
très puissant. Créer du nouveau à partir d'un langage qui est déjà là, qui est le même. Comment fait-on pour apporter du nouveau alors que les composantes, les termes, les propositions sont les mêmes?
Et donc, on est dans l'invention. Et donc, ça, c'est une espèce de génie quotidien de l'humain.
Alors ce génie quotidien de l'humain, Carnap, que Wittgenstein a rencontré, évidemment, en parle en d'autres termes, il parle chez Wittgenstein d'une inspiration divine, écoutez.
Son point de vue et son attitude envers les gens et les problèmes, y compris les problèmes théoriques, étaient bien plus proches de ceux d'un artiste que d'un scientifique. On pourrait presque dire semblable à ceux d'un prophète ou d'un voyant. Lorsqu'il formulait sa conception d'un problème philosophique, nous ressentions souvent qu'il luttait en lui-même pour passer de l'obscurité à la lumière dans une tension intense et douloureuse qui était presque visible sur son visage expressif. Quand la réponse jaillissait enfin, parfois après un long et pénible effort, elle se trouvait là, devant nous, comme une œuvre d'art récemment créée ou une révélation divine. Je ne veux pas dire qu'il était dogmatique dans sa manière d'affirmer ses opinions, mais nous avions l'impression que la compréhension lui venait comme par une inspiration divine, et nous ne pouvions nous empêcher de penser que toute remarque ou analyse rationnelle serait une profanation.
Parler d'inspiration divine et de profanation dans le domaine de l'analyse rationnelle, Marianne Lascaux, on a l'impression que Carnap essaye presque d'exclure Wittgenstein du domaine rationnel, comme s'il avait une autre manière de fonctionner que celle avec laquelle lui-même fonctionne.
Ah, c'est pas pareil, hein, Carnap et Wittgenstein. Mais il faut savoir qu'ils se sont rencontrés donc après la guerre, et il y avait donc ce fameux cercle de Vienne. Et alors, la rencontre a été favorisée par la sœur de Wittgenstein, Margaret Stoneborough, qui connaissait beaucoup de monde et qui a fait venir Moritz Schlick, l'un des grands membres de ce cercle, l'un des fondateurs, avec lequel d'ailleurs Wittgenstein s'entendait très bien et avec lequel il partageait le questionnement très simple, quel est le sens de ton discours? Et alors, ils se sont rencontrés donc à la maison Wittgenstein, ils ont pris le thé et Wittgenstein a dit « Nous nous sommes tenus mutuellement pour des fous ». Donc, vous voyez bien que peut-être que la rationalité
Mais ce qui est une autre façon de dire que les deux appartiennent à deux domaines vraiment différents et peut-être hermétiques, que ce soit rationnel et divin ou au contraire, que ce soit dans le même ordre, tous les deux pour des fous, c'est-à-dire la folie est bien ce qui nous exclut des autres, hein. Donc il se considère lui-même comme étant aussi fou que l'autre.
Oui, enfin, ou partageant pas le même type de rationalité, ça c'est bien certain.
Sandra Logier.
Oui, je crois que la rencontre avec Carnap, c'est intéressant dans la mesure où il y a à la fois cette très forte convergence sur certains problèmes et il y a vraiment, cette naissance de la philosophie analytique avec Wittgenstein et ce dialogue avec le CERN de Vienne. En même temps, il y a eu progressivement, il faut le dire, une sorte de divergence, hein, si on s'intéresse à cela. Je repense à ce début fracassant avec ce que dit Deleuze. Hein. Je crois que ce que traduit aussi Deleuze, c'est une sorte de division qu'il y a entre une philosophie traditionnelle et puis la philosophie analytique qui est perçue, comme il dit, les méchants, quelque chose qui va être quand même un peu sectaire et normatif. Et je voulais revenir là-dessus dans la mesure où, d'une part, c'est certainement excessif de dire cela de toute la philosophie analytique, en tout cas de figures comme Carnap, qui étaient vraiment des grands modèles, y compris éthiques. Mais aussi, alors pour Wittgenstein, c'est vraiment surréaliste et je crois qu'on a intérêt à vraiment peut-être se rendre compte que Wittgenstein, tel qu'il est devenu, n'a peut-être pas grand-chose à voir avec les aspects parfois extrêmement un peu sectaires de la philosophie analytique. Et je crois que c'est cela qui fait sa place un peu justement singulière, bizarre maintenant, c'est qu'il est en effet le plus grand philosophe analytique, celui qui a fait les œuvres vraiment géniales et impressionnantes de ce domaine. Et en même temps, il n'est plus du tout une référence pour cette philosophie-là, qui est de fait le classe du côté un peu de la marginalité, de forme de folie ou d'irrationalité, parce qu'il ne cadre plus avec ce qui se fait maintenant sous ce nom-là, et notamment parce que Wittgenstein est un philosophe qui est, dans sa seconde philosophie, très peu normatif. Hein, et dans ces derniers moments, il va dire finalement, par exemple, si j'ai tort, vous avez raison, donc c'est la même chose. Finalement, ce qui compte, c'est de converger dans la vérité, dans cette forme de vie qu'est le langage. Et donc, c'est un philosophe qui est quand même très profondément atypique. Et c'est ça qui fait sa force, hein, qui fait qu'il vous transforme.
Alors, nous avons commencé cette émission avec un extrait de Gilles Deleuze qui décrivait les Wittgensteiniens comme étant des êtres méchants. Nous allons terminer cette émission, nous lui devons bien, avec quelqu'un, non pas qui aimait Wittgenstein, mais que Wittgenstein admirait beaucoup. C'est une star des comédies musicales des années 30 à 60 américaines qui s'appelle Betty Hutton. Et quand Wittgenstein débarque aux États-Unis, la première personne qu'il demande à rencontrer, c'est elle-même. Elle la joue dans beaucoup de westerns. Elle s'appelle donc Betty Hutton et elle chante, ça ne s'invente pas. It's so quiet, prenons le temps de nous taire. Et donc, pour le penseur qui a écrit ce dont il ne faut parler, il faut se taire, ça tombe quand même bien à propos.
It's so, so quiet. It's oh so still. You're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Zing, boom, the sky up above. Zing, boom, it's caving in. Wham, bam, you've never been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die. Till it's over. And then, shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose, zing, boom, so what's the
Merci beaucoup Sandra Logier et Marianne Lescouret d'être venues nous parler de Wittgenstein aujourd'hui.
Merci.
Sandra Logier de vous, je rappelle qu'on peut lire L'essence de l'usage, Wittgenstein, un ouvrage consacré à Wittgenstein qu'on trouve chez Vrin. Également, vous avez coordonné le livre sur le perfectionnisme moral qu'on trouve chez quel éditeur?
Donc au PUF, La Voix et la Vertu.
Voilà, La Voix et la Vertu, extrêmement utile pour tout ce qui est du perfectionnisme moral. Et Marianne Lescouret, je rappelle que vous avez traduit deux ouvrages de Wittgenstein.
You ring the bell, bim bam, you shout and you yell, ha ha, you broke the spell.
Il est 10h50, moins 10 secondes, vous écoutez France Culture, vous êtes sur un nouveau chemin de la connaissance, il est temps de faire silence et de faire place au journal de la philosophie avec vous, François Nodelman, bonjour.
Bonjour Adèle. La philosophie se sert souvent de la littérature pour illustrer des thèses, mais rares sont les philosophes qui approchent les vérités propres à la littérature. Qu'en est-il du rapport d'Anna Arendt à l'art et aux œuvres littéraires? C'est la question que pose Bérénice Levet dans le musée imaginaire d'Anna Arendt, publié chez Stock. Bérénice Levet, bonjour.
Bonjour.
Vous entrez dans l'œuvre d'Anna Arendt par la voie esthétique. Alors, c'est inattendu et pourtant, effectivement, les œuvres d'art, comme vous le montrez, ont inspiré ces pensées.
Oui, en effet, je suis partie de ce constat que peut faire tout lecteur d'une présence de la littérature sur laquelle il se trouve qu'Anna Arendt ne s'est pas expliquée elle-même. Tant un penseur, un philosophe comme Merleau-Ponty a étayé sa référence, sa sollicitation à la littérature. À Arendt, nous n'avons quasiment aucun texte. Donc j'ai essayé de restituer la pensée de l'art qui sous-tendait cette sollicitation. Alors, si je me suis justement permise d'élargir de la littérature aux autres arts, et notamment donc à la peinture et à la musique, c'est la découverte que j'ai faite du rôle que l'oratorio de Handel, le Messie, avait joué dans l'élaboration d'une notion qui était demeurée extérieure à la philosophie, celle de natalité. Arendt est le premier penseur philosophe à réfléchir, à conceptualiser même la naissance. Or, elle le doit à sa présence à Munich et une représentation de l'oratorio de Handel.
Il y a plusieurs dimensions dans cette idée d'une entrée esthétique, c'est-à-dire aussi bien ce que l'œuvre d'art amène en tant qu'objet de pensée, mais il y a les vérités sensibles ou bien qui passent par l'imagination que permet la lecture de romans. Et il y a aussi des langages de pensée singuliers. Alors, comment vous distribuez toutes ces
oui.
dimensions?
Alors, la sollicitation des œuvres d'art repose sur une distinction très nette qu'établit Arendt, qu'elle reprend à Kant, mais qu'elle prolonge, entre penser et connaître. Nous sommes des êtres qui avons soif de connaissance, soif de vérité, et c'est une soif qui est étanchée par la connaissance scientifique, mais notre besoin de sens, notre aspiration à comprendre, requiert d'autres modalités d'approche du réel. Et donc, c'est ce qu'elle va appeler la pensée, par opposition à la connaissance, et les objets de pensée, ce sont précisément les œuvres d'art. Ce sont elles qui vont nous permettre de travailler les questions que pose la condition humaine, qui sont des questions, des énigmes, comme elle le dit, auxquelles il vaut la peine de réfléchir, mais que nous ne pourrons pas résoudre, en tout cas qui ne se résolvent pas à la façon d'un problème mathématique ou technique. Donc on pourrait dire que les vérités scientifiques, elles sont certes instructives, mais elles n'intéressent pas au sens fort la condition humaine. Alors que l'approche littéraire, picturale, musicale alimente, nourrisse le vocabulaire et de notre intelligence et de notre sensibilité.
Il y a une autre question qu'on peut se poser à l'égard des œuvres, c'est leur pouvoir d'amélioration de l'humanité ou de résistance aussi à l'égard du mal. Évidemment, avec Arendt, on est au cœur de ce problème, de cette problématique. Donc l'œuvre d'art est-elle pour elle, pour Anna Arendt, embarquée, engagée, et dans quelle mesure l'œuvre d'art a un pouvoir face au désastre humain?
Alors non, précisément, l'œuvre d'art n'est surtout pas engagée. Elle n'a qu'une chose à faire, à établir, c'est de dire ce qui est tel qu'il est, en sorte que cela ne sera pas sans effet, mais il ne s'agit absolument pas de l'entraîner dans une quelconque cause. Dire ce qui est, c'est déjà une fonction en soi qui est absolument nécessaire à notre prise de conscience, sans doute, mais elle n'a pas à aller au-delà, parce que dès lors qu'on entre dans le militantisme, on falsifie la complexité du réel.
Alors, il y a l'œuvre d'art qui serait militante intentionnellement, mais la lecture qu'on peut faire des œuvres d'art, dans quelle mesure ne risque-t-elle pas d'être militante? Et là, je voudrais faire référence, d'ailleurs c'est intéressant que vous abordiez là le poids de la littérature et comme instructive, puisque c'est un débat qu'il y a aujourd'hui, avec notamment Martha Nussbaum, sur l'idée que voilà, les œuvres littéraires peuvent nous apprendre quelque chose. Mais c'est un peu la question que je voudrais vous poser, qu'on peut poser aussi à de nombreux philosophes. Est-ce que la lecture, du coup, philosophique des œuvres d'art ne tend pas, par une forme de militantisme philosophique, à les réduire souvent à un message?
Alors non, je ne pense pas justement. C'est pourquoi la littérature et l'art doivent venir relayer la philosophie. Mais en revanche,
oui, vous dites béquille, béquille, c'est un mot.
Oui, c'est une béquille.
Peu problématique, béquille.
Sur laquelle s'appuyer pour mordre sur le réel. Mais en revanche, le philosophe doit s'abstenir de projeter ses catégories sur les œuvres dont il s'empare. Et au contraire, être réceptif, recevoir la lumière des œuvres elles-mêmes. Et ce qu'elles disent qui est absolument irréductible à un langage conceptuel. C'est cela qui nous fait nous tourner vers la littérature, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être dites dans le langage conceptuel. Et alors, pour la question de savoir le rôle quand même que les œuvres d'art peuvent jouer par rapport à l'engagement, le XXe siècle nous a légué cette question de savoir si la culture nous protégeait contre la barbarie. Je dirais que les œuvres d'art sont là justement pour essayer d'alimenter notre cœur intelligent, selon la formule qu'elle emprunte au roi Salomon, c'est-à-dire nous rendre attentifs au réel. Et donc, ce que Arendt écarte, en revanche, c'est un rapport esthétique aux œuvres d'art. Il est assuré que les œuvres doivent projeter une lumière, un éclairage sur le réel. Donc, ce n'est pas non plus qu'elles soient absolument inutiles. Oui. Mais en revanche, elles ne doivent pas être instrumentalisées.
Dans cette distinction que vous faites, Bérénice Levet, entre approche esthétique et approche philosophique, n'y aurait-il pas, malgré tout, peut-être un malentendu qui serait assez manifeste dans la lecture, par exemple, qu'elle fait. Alors, vous citez, c'est tout à fait passionnant, Faulkner, Kafka, Blixen et Sarraute. Moi, j'étais comme ça tout à fait intéressé par ce dialogue qu'elle a eu avec Sarraute. Mais en même temps, voilà, elle dit à propos de Sarraute, « Ah, mais n'écoutez pas Sarraute, ne lisez pas l'air du soupçon, etc. » Enfin, j'exagère, hein,
oui,
sûr,
oui, oui.
Je force le trait. Parce qu'en fait, elle raconte bien des histoires. Oui. On a envie de dire « Ouf, heureusement ça !» Et on se dit, enfin, moi, je me dis, mais vraiment, ces gens-là, ils ne comprennent pas grand-chose à la littérature, parce que justement, la littérature, ce ne sont surtout pas des histoires, et ce que fait Sarraute ne peut pas se réduire à des personnages, à une analyse du snobisme, et que c'est depuis l'écriture elle-même que se fait jour un sens, une réflexion.
Non, ce que vous dites n'est pas du tout incompatible avec le sens qu'Arendt attache à la notion de raconter des histoires. Raconter des histoires, c'est mettre en forme, mettre en intrigue notre rapport au réel. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que ce côté désincarné du nouveau roman ferait qu'on on fermerait rapidement ces ouvrages, si réellement ils n'étaient pas à la hauteur de notre goût d'entendre raconter quelque chose. Et donc, il ne s'agit pas tant de nier la nouveauté irréductible de l'écriture de Sarraute, mais en revanche, ce qu'il y a chez Arendt, c'est qu'en effet, il faut qu'il y ait des personnages qui, malgré tout, aient une épaisseur, parce que c'est la dimension de l'incarnation, de l'épaisseur, que nous n'avons pas dans la philosophie et qu'elle récupère dans l'art.
Merci Bérénice Levet. Je rappelle votre livre, donc Le musée imaginaire d'Anna Arendt, paru chez Stock. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie et le podcaster sur franceculture.fr.
Merci François. Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine consacrée à Wittgenstein. Demain, nous rentrerons dans le vif du texte. Je recevrai Jérôme Sacure et Sébastien Gandon pour vous parler du Tractatus Logico-Philosophicus.
Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site internet de franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins, où vous trouverez également toutes les indications bibliographiques et sonores concernant l'émission du jour.